Le chemin des transitions. Denis et.
Bonjour à toutes et à tous. La Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau, et Dynamo, l'association qui amène l'eau là où elle n'est pas, vous accompagne sur le chemin des transitions. C'est l'émission qui, chaque semaine, vous propose de marcher dans les pas d'un guide éclairé vers un monde meilleur. Aujourd'hui, j'ai bien de la chance, et je crois que vous aussi. Je reçois Éric Veissy. Outre qu'il est de bonne compagnie, il est aussi intarissable sur son sujet, et il suffit de le mettre en route pour laisser l'émission se faire toute seule. Session révision pour nos auditeurs assidus, Éric est déjà venu nous parler de Terre et Océan, cette structure de médiation culturelle, des sciences et de l'histoire des environnements. Oui, vous avez bien entendu, on va parler des environnements, parce que nous ne vivons pas dans un environnement uniforme, et cette notion de pluriel, c'est un peu le détail qui fait la différence, à laquelle Éric tient beaucoup. Et pour cause, selon qu'il nous emmène au cœur des zones humides du Créonnais ou sur les bords du Nil, le propos sera plutôt contrasté, même si des valeurs cardinales communes s'y rejoignent. Je vais demander à Éric de nous décrire ce grand écart entre le marais et le désert de sable, de nous dire les différences d'attitude possibles face aux décors et circonstances qui nous entourent, mais surtout les points communs que nous devons toujours suivre, quel que soit l'endroit du monde où nous sommes. Science et histoire de l'environnement, c'est tout de suite avec Éric Veissy.
L'association Dynamo vous accompagne sur le chemin des transitions.
Bonjour Éric.
Bonjour Denis.
Alors l'environnement, pour certains, ça commence à bien faire, mais en plus ils sont plusieurs. Alors et finalement, en quoi c'est une bonne nouvelle pour nous, habitants de la planète Terre, qui est des environnements et pas un seul?
Alors, comme tu l'as dit en intro, il y a des points communs un petit peu dans toutes les régions du monde, mais il y a des régions particulièrement sensibles, notamment les zones littorales, les cours d'eau. Nous, on travaille beaucoup sur le cycle de l'eau, et le cycle de l'eau, il est inégal. Ça fait des répartitions inégales des ressources, justement, en eau, des potentiels de biodiversité, et aussi donc, des pressions humaines qu'il y a dessus. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre les uns après les autres ou à côté des autres pour bien comprendre les enjeux sociaux, environnementaux qui sont de plus en plus prégnants dans pas mal de parties du monde.
Oui, et donc en fait, selon l'environnement où on se trouve, on va avoir des activités et des productions différentes. Il y a un peu de ça aussi?
Il y a ça, il y a les connexions aussi. Si on prend l'exemple de la Garonne, de l'estuaire de la Gironde, ben en fait, il faut tenir compte de tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire depuis les hauteurs des Pyrénées ou du Massif central, évidemment sur toute la longueur de la grande vallée de la Garonne entre Toulouse, pour faire simple, et Marmande, où il y a pas mal d'activités, notamment l'été avec l'agriculture. Enfin voilà, pour avoir tous les éléments de compréhension de ce qui se passe en aval, dans l'estuaire, autant aujourd'hui au quotidien et suivant les saisons, etc., et même plus largement sur les paysages, il faut avoir donc cette notion globale d'une région, d'un bassin versant, et de ces évolutions hydroclimatiques et sociétales, d'ailleurs aussi, de pression qui peuvent se rajouter.
Alors, ouais, on va peut-être revenir sur la notion de bassin versant, qui en fait est super importante, parce que finalement, ce qui se passe à la source de la Garonne, tout en haut des Pyrénées, finalement, bah, se retrouve quelque part au bord de l'océan, au Verdon, c'est ça?
Tout à fait. Même si on prend l'exemple des paysages, je disais par exemple les îles de l'estuaire, on va nous souvent sur des actions pédagogiques sur l'île Nouvelle, par exemple, qui est donc accessible au public, qui est une île un peu emblématique des renaturations qu'on peut faire dans ce genre d'espace. Mais en fait, cette île Nouvelle, comme son nom l'indique, elle est relativement nouvelle, c'est-à-dire qu'elle date d'un peu plus de 2 siècles. Elle est constituée finalement de sédiments qui sont venus s'accumuler de l'érosion, du fait de l'érosion des sols et de tout le bassin versant en amont, notamment des Pyrénées. Il y a eu une crue exceptionnelle en 1770 qui probablement a amené les bases de sable et de gravier qui se sont accumulées dans l'estuaire et qui ont constitué une île dite nouvelle, mais aussi l'île verte que vous pouvez observer encore aujourd'hui dans l'estuaire de la Gironde.
D'accord. Donc ça, c'est tous ces phénomènes font que finalement, non seulement les environnements sont pluriels, mais en plus, ils sont changeants.
Ils sont changeants, oui. On est sur des environnements dynamiques. Alors, la ligne littorale, par exemple, est assez emblématique par rapport à ça. Sous la pression actuellement de la hausse légère, mais constante des niveaux marins, de l'intensité un petit peu plus accrue et de la fréquence un petit peu plus accrue des phénomènes forts, des tempêtes, dans d'autres régions du monde, de cyclones éventuels. Et les embouchures de fleuves et d'estuaires, enfin de fleuves, donc d'estuaires et de deltas, sont des environnements extrêmement mobiles à l'échelle annuel. Si on prend simplement la Garonne, le débit de la Garonne, sur une année, il peut passer de 50 et quelques mètres cubes secondes à 5000 sur les crues exceptionnelles mètres cubes secondes. Il y a des écarts hydrodynamiques très forts qui se transfèrent en écarts de qualité de l'eau, de dynamique sédimentaire et donc d'écosystème également.
Donc là, donc déjà, on a des différences naturelles qui peuvent aller de 1 à 100, par exemple, hein, sur le débit de la Garonne, par exemple.
Sur la Garonne, c'est extrémisé, on va dire, ces écarts du fait des débits d'étiage de plus en plus faibles. Et bon, les crues, à la limite, il y en a une année, c'est 2000, une année, c'est 3000, une année, c'est 4000 mètres cubes secondes. Une année, c'est un petit peu plus, ça, c'est un peu plus exceptionnel. Mais voilà, il y a des écarts de fait, saisonniers, qui sont plus ou moins importants suivant les régions du monde. Quand on prend les régions du Sahel, par exemple, on a des écarts encore plus forts entre la saison sèche et la saison des pluies. Et puis, il y a des endroits où c'est un peu plus lissé sur l'année, mais c'est un fait. Et le réchauffement climatique dont on parle, évidemment, et qui est un fait accompli, et qui est en cours d'accomplissement, en tous les cas, accentue ces phénomènes-là. D'autant plus que quand on a moins d'eau et des besoins qui partout sont plus importants, ben on a des prélèvements supplémentaires, donc on a des niveaux de basses eaux un peu partout dans le monde qui sont de plus en plus serrés. Ce jeudi à l'Aquaforum, d'ailleurs à 18h30, je présenterai un sujet sur le Moyen-Orient et les questions d'eau entre l'Égypte, Israël, Palestine, Syrie, Turquie, Irak, qui sont particulièrement prégnants depuis déjà plusieurs décennies. Et qui le sont évidemment encore aujourd'hui.
Bon, on va sortir la carte et le temps d'une chanson, on va voir comment on peut aller de l'estuaire de la Gironde jusqu'en Palestine.
Au-delà de nos montagnes, à des milliers de kilomètres au loin, je trouvais une maison. Viens, viens à notre table, sous les figuiers.
Allô, allô. Eh bien oui, c'était La Montagne avec La Daniva. Un drôle de nom pour un groupe de musique.
Environnement, économie, finance, citoyenneté, solidarité. Les transitions vers le monde de demain sont multiples. Chaque semaine, notre invité nous accompagne sur son chemin des transitions.
Alors, je suis en compagnie d'Éric Vessy. C'est l'émission Le Chemin des Transitions, nous sommes bien sûr sur la clé des ondes. Nous avons vu en première partie qu'Éric vient de nous expliquer la différence qu'il pouvait y avoir entre des environnements, voire même, on peut dire, des circonstances qui sont extrêmement évolutives en fonction d'un environnement. On a pris, parce que nous, on est quand même franchement girondins, le fameux estuaire de la Gironde qui sert souvent de décor ici. Et bah, bon, on parle effectivement de des choses, on a parlé, évoqué la naissance de l'île Nouvelle il y a deux siècles environ, suite à des événements climatiques, etc. Les événements climatiques, bah, ils continuent, puis surtout là, ils sont sous constante influence de l'activité humaine. On peut parler notamment du trait de côte qui va avoir tendance à reculer, puisque le niveau des océans monte suite au réchauffement climatique, etc. Ceux qui connaissent un peu Soulac-sur-Mer savent que bah, il y avait un immeuble qui était construit au bord de l'eau qui maintenant est écroulé. On l'a vu, la falaise se creuser sous ses fondations au fil du temps. Et puis bon, bah, finalement, il a fallu le crouler. Alors ça, c'est l'exemple de ce qui se passe au bord de la Garonne. Et donc, je crois que Eric tout à l'heure, va faire une conférence à l'Aquaforum sur ce qui se passe au bord du Nil. Et là aussi, le Nil, c'est... le fleuve emblématique de l'Égypte et de toute une civilisation et de tout un mode de vie autour du fleuve. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Autour du fleuve, oui, tout le long du fleuve, en fait, il y a un certain nombre de siècles, avec l'assèchement un petit peu de cette zone du Sahara, ben, les gens se sont rassemblés là, autour de l'eau et autour de ce grand fleuve. Et aujourd'hui, la problématique, alors chez nous, effectivement, il y a l'érosion du littoral, ce recul, cette érosion aussi avec ce qu'on appelle la dérive littorale, donc le transfert de sable du nord vers le sud sous l'effet des courants, non compensé par l'apport de sable qui a beaucoup diminué de la part des fleuves et notamment dans notre estuaire de la Gironde, par rapport à ce qu'il était auparavant. Donc, on a effectivement un littoral qui recule. Et si on prend l'exemple du Nil, ben c'est le delta du Nil aujourd'hui qui a des soucis aussi. Alors, du fait aussi des aménagements, il y a eu le grand barrage d'Assouan dans un premier temps, et puis un certain nombre d'autres aussi qui ont amoindri les apports de sédiments dans le delta. Et donc, on a une intrusion saline, même s'il n'y a pas la marée en Méditerranée, mais il y a quand même une intrusion saline dans les terres de marge, donc qui pose des problèmes aux cultivateurs locaux.
Moins de sédiments, ça veut dire des terres cultivables moins fertiles autour, c'est ça aussi ?
Alors ça veut dire voilà, une érosion de potentiel de la zone littorale et puis des infiltrations d'eau salée sur les nappes phréatiques les plus proches de la Méditerranée en l'occurrence. On retrouve cette chose aussi depuis plusieurs années sur la bande de Gaza, par exemple sur le littoral qui est très peuplé et donc où les prélèvements pour la ressource en eau, justement, ils se font sur les nappes phréatiques en connexion avec les eaux salées de la Méditerranée et qui s'infiltrent petit à petit.
Et on retrouve ça aussi sur la mer de plastique, au sud de l'Espagne aussi, où effectivement les nappes phréatiques seront de plus en plus salées.
Alors, les nappes phréatiques, quand elles sont très sollicitées, effectivement, elles se compensent par justement les connexions qu'elles ont avec d'autres eaux. Et si elles sont en zone littorale, ça, c'est le cas aussi dans pas mal de régions du monde et au sud de l'Espagne, ça peut être des faits d'infiltration. Et une fois qu'une nappe est salée, ben, elle est évidemment relativement impropre à la consommation.
Donc là, on voit effectivement qu'il y a des environnements extrêmement différents. Le bord du Nil, le bord de la Garonne ou le sud de l'Espagne, mais que finalement, il y a des phénomènes communs et des précautions communes, en l'occurrence, la sollicitation des nappes phréatiques sur lesquelles il faut être raisonnable et puis aussi faire attention aux aménagements qui sont faits et qui peuvent changer les conditions. Sur le Nil, c'est quoi alors qui risque de se
alors,
passer ?
Alors, nous, on a la chance en France d'avoir nos réseaux fluviaux relativement, pas à 100%, mais en tous les cas un grand pourcentage à l'intérieur de nos frontières, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup de bassins fluviaux, très grands bassins fluviaux ou petits d'ailleurs, qui sont partagés entre plusieurs pays. Et le partage des eaux entre les pays de l'amont et les pays intermédiaires ou de l'aval se fait parfois très bien, mais souvent, c'est un peu compliqué. Et là, pour l'actualité très chaude qui est celle du Nil, de l'Égypte, c'est que l'Éthiopie, après des années, on va dire, d'exclusion de sa prise de part d'eau sur sa partie, 80% des eaux du Nil égyptien viennent de l'Éthiopie par le Nil bleu, bah, ils ont décidé la construction de plusieurs barrages, mais surtout du grand barrage qui s'appelle le grand barrage de la Renaissance, qui est en cours de remplissage à l'heure actuelle et qui, de fait, par cette période de remplissage, amoindrit l'eau qui s'écoule en aval donc dans le Nil.
Donc ils sont un peu entre guillemets en train d'assoiffer les Égyptiens, les Éthiopiens, enfin sans procès d'intention, hein, mais je veux dire les conséquences de la construction de ce barrage sont super importantes pour l'aval.
Surtout pendant la période de remplissage, c'est là qu'il y a des tensions justement sur la durée de remplissage que l'Éthiopie souhaite rapide, évidemment, et que l'Égypte, mise devant le fait accompli de toute façon que le barrage est construit, souhaite le plus lent possible pour que ça n'affecte pas trop fortement chaque année l'écoulement qui va vers eux. Donc, dans un contexte aussi où voilà, on est en zone quand même aride, dans des pays peuplés, en développement plus ou moins fort, mais en tous les cas entravé ou modéré par justement cette ressource en eau qui est un facteur limitant au développement. Parce qu'on parle souvent d'eau virtuelle, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est-à-dire qu'on a l'eau à disposition pour faire un certain nombre d'usages. L'eau sert à tout, en fait. Sert à l'agriculture, à l'industrie, à l'énergie, à travers notamment les barrages ou le refroidissement des centrales nucléaires. Et puis, sert bien sûr à l'alimentation en eau potable. Mais si on n'a pas assez d'eau pour pourvoir à tous ces usages, ben, il faut faire des choix. Et justement, ce qu'on n'a pas, ben, on l'importe sous forme d'eau virtuelle, c'est-à-dire d'eau consommée ailleurs que sur notre territoire.
Oui, et par exemple, si on n'a pas de barrage, eh bien, on importe de l'électricité d'ailleurs.
Tout à fait.
Par exemple.
Ou des pulls qui, quelque part, sont de l'eau virtuelle, de l'eau qui a été utilisée pour les fabriquer et pour faire pousser les.
D'accord. Alors, nous, on est un pays fortement pourvu en eau, quand même, la France, mais ça ne nous empêche pas de faire beaucoup d'importations et d'avoir, au point d'avoir une balance commerciale extrêmement déficitaire. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, et j'espère que vous, nos auditeurs aussi, c'est de savoir l'objectif de la construction de ce barrage en Éthiopie qui. C'est un barrage qui aura des capacités hydroélectriques, c'est du stockage d'eau, qu'il va faire ?
Surtout une grosse capacité hydroélectrique, c'est l'idée d'un développement. L'Éthiopie, pour prendre l'exemple de ce bassin, a été un petit peu mise en marge, puisque les accords jusque-là de partage de l'eau ne concernaient que l'Égypte et le Soudan, c'est-à-dire exceptionnellement pour la plupart des bassins versants, c'est-à-dire les pays de l'aval qui avaient la main sur l'eau. À travers ces accords qui datent déjà des années 50-60. Et là, ben en fait, les pays de l'amont se sont rassemblés depuis un peu plus de 10 ans maintenant pour aussi donc prendre leur part de développement et donc capter de l'eau à travers des barrages. Et le plus important est celui de la renaissance en Éthiopie, puisque et donc autour de ce barrage, à partir du moment où il y a de l'énergie, ben ça va être de l'industrie et donc un développement sur le modèle économique que des pays d'Asie du Sud-Est, quoi, par exemple.
Ah, d'accord, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans une industrialisation folle, c'est ce qu'on peut craindre ?
Folle, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce barrage est un des plus puissants qui va être donc sur la planète à l'heure actuelle, derrière le barrage des Trois Gorges. Et donc, ça va être un méga barrage, le plus important en tous les cas sur le bassin du Nil.
Mais les besoins d'électrification en Afrique sont quand même hyper importants, dans cette région aussi.
Tout à fait, ça va permettre d'électrifier les villes et villages, en tous les cas, il faut l'espérer pour les populations locales, et aussi donc à but d'irrigation aussi et industriel, et ça sera également partagé aussi avec le Soudan.
D'accord, donc il y a quand même un point positif, parce qu'ils ont besoin d'électricité. Après, on sait qu'ils amoindrissent les apports en eau sur le Nil. Ça a des conséquences sur les plaines alluviales qui sont autour du Nil, c'est ça ?
Ça peut l'avoir. On va voir, en fait, dans les années qui viennent, les conséquences réelles. Si on regarde un petit peu les exemples de la région, c'est vrai qu'on peut craindre ce qui s'est passé et se passe encore entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, au niveau du Tigre et surtout de l'Euphrate. Puisque donc depuis plus d'une vingtaine d'années, la Turquie a mené la construction de plein de barrages, de plus d'une vingtaine de grands barrages, qui ont amené donc forcément la réduction du débit de l'Euphrate en Syrie dans un premier temps et en Irak dans un second, et qui ont mis en difficulté la production agricole le long de ces rivières et fleuves, et donc au final un déséquilibre social qui a eu un certain nombre de répercussions qu'on connaît.
D'accord. Bon, donc là, on est quand même sur des projets qui sont... Alors, quelque part, on présente toujours les aspects positifs, mais on ne mesure pas toujours les conséquences de ce genre de choses.
Mais la question de l'eau, puisqu'on est sur la question de l'eau, peut être un formidable facteur de coopération à l'échelle interrégionale. Pour ce qui nous concerne en France, c'est plus ça, interprofessionnel. C'est ce qu'on voit aussi, les tensions qui sont là chez nous, avec les ressources qui se raréfient et des besoins importants, notamment l'été. Ou alors, voilà, ça peut être aussi des questions de temps de conflit, mais il peut y avoir aussi des coopérations entre pays qui doivent partager l'eau. Exemple entre Israël et la Jordanie, par exemple, depuis des années, il y a des accords qui ont été signés et entre deux pays qui sont dans une ressource extrêmement faible, basiquement, par rapport, en tous les cas, à la France et à l'Europe et à d'autres pays.
Bon, on va sortir notre atlas hydrographique de la planète, le temps d'une chanson que nous envoie tout de suite Tom.
C'était un petit jardin qui sentait pour le métropolitain. Il sentait bon le bassin parisien.
C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin.
Avec deux arbres, un pommier et un sapin.
Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
Mais un jour, près du jardin,
passa un homme qui, au revers de son veston,
portait une fleur de béton.
Dans le jardin, une voix chanta:
de grâce, monsieur le promoteur,
de grâce, de grâce. Préservez cette grâce.
De grâce, de grâce, monsieur le promoteur.
Ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Il sentait bon le bassin parisien.
C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin.
Avec un homme qui faisait son jardin. Au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
Mais un jour, près du jardin, passe un homme qui, au revers de son veston,
portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta:
de grâce, monsieur le promoteur,
de grâce. De grâce, préservez cette grâce.
De grâce, monsieur le promoteur.
Ne coupez pas mes fleurs.
C'était Thomas Dutronc, le fils de Jacques, qui reprenait une chanson de Jacques, Le Petit Jardin, et qui, vu ce que nous a expliqué Eric tout à l'heure, risque d'être de plus en plus petit.
Le chemin des transitions. Denis et.
Alors, nous sommes donc avec, en compagnie d'Eric Vessy, qui va donner tout à l'heure là, une conférence à l'Aquaforum. Je pense que ceux qui écoutent maintenant l'auront certainement, sont pas au rendez-vous, mais il y en a régulièrement. Il nous a expliqué un petit peu ce qui se passait là au bord du Nil suite à la construction de cet énorme barrage en Éthiopie. Et est-ce qu'on rencontre un petit peu le même type de phénomène sur les débits de la Garonne? Est-ce qu'on peut comparer un peu ce qui se passe là-bas et ici?
Ben, chez nous, effectivement, on a l'agence de l'eau qui s'occupe de ce fameux partage de l'eau à l'échelle de nos bassins versants et l'agence de l'eau Adour-Garonne, pour ce qui nous concerne dans le sud-ouest, qui réfléchit depuis pas mal de temps avec ses projections qui s'appellent Garonne 2050 pour pouvoir assumer à long terme, sur plusieurs décennies, les usages dont on a besoin pour la filière agricole, pour la filière industrielle, même si on n'est pas le bassin le plus industrialisé, puis l'eau potable, tout simplement. À Bordeaux, c'est pas... on a des nappes profondes, ça sera peut-être notre sujet, mais à Toulouse, ils boivent l'eau de la Garonne, à Agen un petit peu aussi, enfin bref, il y a des endroits donc, tout le long du bassin où on a besoin de la Garonne. Et la Garonne, elle est plutôt en déficit ces dernières années. Si on prend une courbe là, depuis un peu plus d'un siècle, on a perdu en tous les cas depuis 40 ans à peu près 20% du débit de la Garonne en moyenne annuelle. Alors, ce n'est pas tous les ans pareil, évidemment, avec des fluctuations à l'intérieur même des années. Mais on voit un déficit donc se perpétuer, en tous les cas, sur les moyennes comme ça décennales. Et surtout, être encore plus extrême, si on peut dire, pendant la période d'étiage, c'est-à-dire la période estivale, la période justement
où on en a le plus besoin.
Où on en a le plus besoin, notamment pour l'agriculture.
C'est toujours comme ça, hein. C'est comme même chez soi, le chauffage, il tombe en panne que l'hiver. Hein.
Voilà, mais c'est justement le parallèle qu'on peut faire avec les zones plus arides, évidemment, pour faire de l'agriculture, par exemple, qui est quand même la plus grosse consommatrice d'eau à l'échelle mondiale, et c'est pour nous nourrir, donc c'est pour une très très bonne raison. Mais évidemment, quand il faut du soleil, donc, mais quand il y a du soleil, il n'y a pas forcément le potentiel eau maximal, donc on va piocher à ce moment-là dans les réseaux de surface, donc les rivières, ou les nappes phréatiques, ou les nappes encore plus profondes qui ont le désavantage de ne pas se recharger très très vite. Et donc, voilà, quand plus on pompe, évidemment, plus on est en situation de tension, en tous les cas de limite pour cette ressource.
Alors, donc oui, ça c'est très important de le souligner, la ressource essentielle, initiale, la base de tout, c'est quand même l'eau. Et est-ce qu'on fait... finalement, et ça, ce sera, il faut répondre en 40 secondes, Eric, c'est un défi. Est-ce qu'on prend des bonnes mesures pour préserver et gérer au mieux cette ressource indispensable ?
Alors, pour ce qui est des mesures, si on prend notre région, c'est vrai qu'il faudrait arriver à partager l'eau et notamment à ce qu'elle s'évapore un peu moins, si on fait l'élément le plus important. Donc, pour qu'elle s'évapore un peu moins, il faut que l'aménagement des sols, on parle d'agroécologie notamment, soit plus développé. Et je pense que c'est une voie qu'il faut prendre chez nous et ailleurs, mais notamment chez nous dans le bassin d'Adour-Garonne.
Bon, on a 30 secondes. En quoi l'agroécologie permet de moins évaporer l'eau ?
L'essentiel, c'est de garder l'eau dans les sols. Parce qu'en fait, le déficit de la Garonne aujourd'hui, il est essentiellement dû à l'augmentation de ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc, la température de l'air étant plus chaude, il y a plus d'évaporation au niveau des sols, au niveau de la végétation, au niveau des plans d'eau, évidemment, aussi. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à mieux gérer pour qu'on puisse tirer le maximum de la ressource à l'eau.
Donc, plutôt de l'eau qui imprègne les sols que de l'eau qui circule à l'air libre, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, on parlait de haies, de choses comme ça pour arriver à amortir un petit peu ce problème d'évaporation.
Bon, je crois que ça sera aussi certainement l'émission, le sujet d'une prochaine émission. Il faut signaler donc à l'Aquaforum qui abrite Terre et Océan, eh ben, qu'il se passe toujours des choses foncièrement intéressantes concernant tout ça. Je crois que Eric nous a fort bien illustré un petit peu avec quel... biais, il peut aborder tous ces sujets. Je vous invite à consulter donc, le site internet www.terre-et-océan.fr.
C'est
bien ça. C'est à l'Aquaforum à Bègles, donc c'est pas si loin, vous pouvez y aller quand vous voulez. Et il y a des très bons magazines, donc la Terre et Océan Magazine Chaos Hydroclimatique des régions sensibles, et bien voilà, on verra, on vient d'en parler. Et puis Garonne d'Ordogne, pour ceux qui veulent plus rester local, Bouchon Vaseux, Estuarien. Ben voilà, ça rejoint ce qu'on disait. Mais maintenant, le chemin des transitions, c'est fini pour aujourd'hui. Et oui, c'est déjà fini. Au revoir à tous et à toutes, chers auditeurs. Nous recevions Eric Veissy de Terre et Océan. Vous aurez bien sûr toutes les infos sur le site de La Clé des Ondes, laclédesondes.fr. Donc, Le Chemin des Transitions, c'est une émission produite par Dynamo EAU à la fin. C'est l'association qui amène l'eau là où elle n'est pas. Vous pouvez nous retrouver soit sur dynamo.org ou sur laclédesondes.fr. Merci à Tom, notre nouveau virtuose de la table de mixage et de la playlist. Maxime, notre champion du carnet d'adresses. Xavier, notre grand Manitou. Et Baptiste, notre journaliste couteau suisse. Allez, c'est maintenant place à Point Chaud. Ça, c'est sur l'actualité climat de lutte. Mais comme son nom l'indique, le climat. Et ensuite, place à de la musique. Vous aurez d'abord de la musique grecque. C'était un moment intéressant. Et puis du jazz. Alors, soyez sympas avec vous. Soignez-vous. Écoutez La Clé des Ondes. Ciao, bye bye. À la semaine prochaine.